Vous écoutez Ballet Pat saison 2, épisode 10. Tu seras une femme, mon fils.
Un podcast RFI.
Sois un homme. Comme moi, vous avez sans doute souvent entendu cette injonction, dans des films, mais aussi dans la vraie vie. Sois un homme, c'est ce qu'on dit parfois aux garçons quand ils se mettent à pleurer après une chute ou quand ils n'osent pas faire quelque chose. Sois un homme. Mais comment définit-on un homme en fait? Est-on un homme juste parce qu'on est né avec un pénis? Comment construit-on son identité masculine? C'est de tout cela que je vais vous parler dans cet épisode. Pour m'éclairer sur cette question du genre et de l'identité, je suis allée à la rencontre de deux personnes qui vivent au Burkina Faso. Toutes les deux revendiquent à leur façon leur identité de genre. Pour des raisons de sécurité et afin de préserver leur identité, nous avons convenu ensemble de réaliser les interviews à l'abri des regards.
Moi, c'est Sandrine. Je suis burkinabé, précisément à Bobo-Dioulasso.
Est-ce que tu es née Sandrine?
Je suis née en tant que petit garçon. Bon, il me voit toujours comme un petit garçon. Hein. Il me voit toujours comme ça. J'ai décidé de me donner le nom Sandrine qui me va trop bien. Parce que je me sens comme une femme. Selon mes parents, la société, je suis un petit garçon, mais moi, je ne me suis jamais vue comme ça. Donc, du coup, j'ai toujours aimé le nom Sandrine depuis tout petit. Ma famille ne le sait pas. Je me suis donné ce nom-là juste dans mon milieu, dans le milieu auquel je suis. Bon, depuis tout petit, on me disait, non, comporte-toi comme un vrai homme. Les hommes ne se comportent pas de la sorte. Tu fais trop les femmes. On va couper ton zizi. Moi, quand on me parlait, on va couper ton zizi. Là, moi, j'étais déjà content. Je pensais, si on coupe le zizi, l'autre, le vagin va venir, un truc comme ça. Donc, ça fait que j'ai grandi, surtout mes grands, côté grands frères. Chaque fois, mes grands frères n'arrêtaient pas de me poser la question. On dit que tu es gay. On dit que tu sors avec les hommes. En ce moment, moi, je ne connaissais rien. Je ne sortais pas avec les hommes, ni rien du tout. Donc, toutes ces questions-là m'ont poussé vraiment à voir qui je suis réellement.
Est-ce que parfois tu t'es entendu dire « sois un homme » ?
On me dit « sois un homme » parce que tu es un homme.
Et comment tu réagissais face à ça quand tu entendais ce type de paroles ?
Bon, ça me faisait mal. Même quand j'étais un enfant, je déprimais. Je me rappelle une fois, ma maman me dit, on mangeait, elle m'a giflé en me disant « toi, j'étais toujours de te comporter comme un homme ». Donc, j'ai grandi avec ce jour, j'ai détesté ma maman. J'ai grandi avec ça à l'esprit.
Et là, tu as parlé de ta mère et du côté de ton père.
Bon, avec mon père, on ne s'est jamais rapproché. Bon, je dirais que mon père, il est comme ça. Il n'est pas déjà à s'approcher de ses enfants, ni rien du tout. Donc, ce côté-là, il n'y a rien. Mes grands frères, avec eux et moi, on ne se parlait même pas. Parce qu'il m'avait, je peux dire, il m'avait à peu près banni de la famille. Parce qu'on ne se parlait pas. Mes grands frères me disaient, non, on ne veut même pas que les gens chassent, qu'on ait des frères, un truc comme ça. Mais j'ai une petite soeur et un petit frère. Je sais qu'ils m'aiment. Ma famille et moi, mais on était vraiment séparés. C'est maintenant que ça commence à aller.
L'histoire de Sandrine permet de comprendre qu'on peut naître avec des organes génitaux masculins et ne pas s'estimer homme dans son ressenti. Dans le cas de Sandrine, elle est venue au monde en tant que petit garçon et la société la voit ainsi. Ses parents lui ont donné un prénom masculin. Mais devenue adulte, il a choisi qu'on l'appelle Sandrine. Et Sandrine est une fille.
Bon, j'étais un type d'enfant qui était vraiment à part. Hein, parce que je me suis toujours vue différent des autres. Vu que les autres me voyaient comme un petit garçon, mais moi c'était tout le contraire. Et puis j'ai grandi dans un environnement, toutes les religions, on prenait beaucoup compte de ça, dans le milieu des hétéros, quoi.
Quand tu étais petit, tu grandissais, tu te sentais plus garçon, petit garçon que petite fille?
Non, je me sentais plus petite fille. Je ne me suis jamais vu un petit garçon. Oui. Bon, depuis le bas âge, moi, j'étais attirée par les garçons. Mes camarades, ils couraient derrière les petites filles, ils sortaient ensemble, un truc comme ça. Moi, je n'étais attirée que par des garçons. Je pensais même que c'était une maladie. Je n'ai jamais pu dire ça à quelqu'un. Jusqu'à l'âge de 17 ans, où j'ai pu parler à un ami, j'ai dit, il y a un phénomène qui est en moi, je ne comprends pas, je ne sens rien pour les filles. Donc, lui, il m'a dit, non, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas fou ni malade.
Quand tu sors, par exemple, ou même quand tu es chez toi, comment tu t'habilles?
Pour sortir de cette ville-là, je porte vraiment des habits d'homme pour ne pas me faire repérer.
Mais tu te sens comment dans ces habits d'homme?
Bon, je me sens mal. Je me sens obligée. Je me sens très obligée de porter ça. Ouais. Je me sens un peu déguisée en homme. Je suis obligée de laisser mes barbes, de ne pas me coiffer comme je veux pour ne pas me faire remarquer, quoi.
Quand tu es dans la rue, est-ce que les gens posent sur toi des regards un peu très appuyés, indiscrets, ou te font des remarques, par exemple?
Oui, bien sûr, les gens me font des remarques. Si tu es au côté violence, c'est trop. Je vous ai dit que je travaille dans une ONG. Maintenant, l'ONG n'est pas trop éloignée de mon ancien quartier, dont les gens me connaissent bien là-bas. Le fait que je partais travailler là-bas, les gens du quartier là se sont levés pour aller avertir là où je travaille là, que s'ils ne me disent pas de ne plus venir ici, ils vont venir brûler leur siège. Maintenant, quand ils ont fait le premier avertissement, bon, je partais toujours. Deuxième avertissement, maintenant, ils ont amené des machettes, des bâtons, plein de trucs pour venir, moi, me battre. Donc, on m'a prévenu et je suis rentré vite fait. Donc, ça fait qu'actuellement, je suis en chômage. Rien ne m'a jamais fait mal comme ça. Empêcher un être humain d'aller travailler, soit disant qu'il est efféminé. Bon, moi, je trouve ça ridicule, quoi. Je trouve ça ridicule. C'est quelque chose vraiment qui m'a un peu abattu, très abattu même, je dirais. Je n'arrive toujours plus. Je ne pourrais même pas oublier ça, en fait. Même à l'école, ce qui m'a poussé même d'arrêter les écoles. Tu pars à l'école, chaque fois on t'insulte, pédé par-ci, pédé par-là. Même si on a des cours de sciences, chaque fois qu'on parle de la sexualité, j'entends mon nom. Ça m'a poussé d'arrêter les écoles, quoi. Donc, chose qui me fait mal aujourd'hui, je n'aurais pas dû regarder ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un mental vraiment très fort. Si j'avais ça auparavant, je n'allais pas arrêter mon école. C'est tout.
Est-ce que jusque-là, tu arrives à vivre pleinement ta vie en tant que femme?
Il y a des endroits où que je vais là, il faut vraiment que je m'adapte à eux. Parce qu'on dit souvent, quand tu rentres dans un coin, tu trouves que les gens marchent sur la tête, il faut te forcer aussi pour marcher sur la tête, pour préserver ta sécurité, quoi. Faut pas que je vais me faire agresser ou bien me faire tuer, un truc comme ça. Le nombre de maisons même que j'ai fait de 2017 à aujourd'hui, c'est trop. Chaque fois qu'on me remarque dans un coin, je suis obligée de déménager parce que j'ai peur que quelque chose de grave m'arrive.
Tu as déménagé un nombre de fois incalculable. À peu près combien de fois tu as dû déménager?
Bon, 17 comme ça, hein. J'ai fait presque tous les quartiers de Bourg-du-Lasso. Presque. La courte durée de toutes ces aventures a été 12 jours. J'ai déjà pris une maison. Le 12e jour, le propriétaire est venu me dire... Il me rembourse tout l'argent que j'ai, je viens de lui donner. Il me donne tout ça, mais il faut que je quitte sa maison dès aujourd'hui.
Après Sandrine, j'ai aussi rencontré Pacifique Dorian, jeune béninoise qui vivait au Burkina Faso.
Je m'appelle Pacifique Dorian Soyonvi. J'ai 23 ans.
Elle est lesbienne et elle ne s'en cache pas sur les réseaux sociaux, où elle avait d'ailleurs écrit ce texte que je lui ai demandé de nous lire.
Qui je suis? Je suis gamanké, comme vous aimez souvent le dire. Souvent, quand vous me le dites, je me revisite et je pose des questions à Dieu. J'essaie de comprendre pourquoi il m'a créé ainsi. Mais je ne suis pas Dieu. Moi, je suis juste une petite, minuscule être vivant parmi tant d'autres. Des fois, je demande à ma mère pourquoi je ressemble tant à un garçon. Et elle me dit sûrement que je ressemble trop à mon père. Récemment, j'ai même changé ma coiffure juste pour avoir l'impression de ressembler un peu à une fille. Mais c'était raté, c'est encore pire. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens, ce que je supporte depuis des années. Quand on te voit dans la rue pour te poser des questions, toi tu es une fille ou un garçon? Tu ressembles trop à un garçon. Vous n'imaginez pas le poids de ces remarques sur ma personne. Pour vous, ça peut être banal, mais vous n'imaginez pas comment cela affecte ma santé mentale. Vous connaissez le fait d'avoir l'impression qu'on est une ratée. Tu es lesbienne? Encore que ça n'engage que moi. Et j'en ai marre, foutez-moi la paix. Je suis garçon manqué, mais je suis une fille.
C'est très fort, c'est très symbolique ce texte.
Oui, en écrivant ce texte, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais un peu hors de moi et j'étais très triste en ce moment.
Et les gens te disent souvent que tu es un garçon manqué?
Oui, ils me disent souvent, plusieurs personnes même. Ça, c'est mon quotidien même.
Et ça te fait quoi quand tu entends ça?
Des fois, bon, ça me fait mal des fois et Des fois, je me dis, bon, c'est juste comme ça, ils n'ont qu'à dire, je m'en fous de ce qu'ils disent. Mais des fois, j'arrive pas à supporter, ça fait très mal.
Il y a une phrase où tu dis, je demande à ma mère souvent pourquoi je ressemble à un garçon, elle dit, pourquoi je suis comme ça, voilà, et elle dit certainement que je ressemble trop à mon père. Est-ce que c'est déjà arrivé et réellement ça?
C'est vrai. Je pense, bon, à des moments donnés, je suis bleue. Et je demande à ma mère, maman, pourquoi je ressemble autant à un garçon? Et elle me dit que bon, parce que je ressemble à mon père. Et en vrai, je ressemble vraiment à mon père.
Et ça te console un peu? Ça te rassure un peu quand elle te dit ça?
Oui, ça me rassure toi-même.
En discutant avec toi, tu me sembles être une personne timide et réservée. Ou c'est juste une impression?
Pacifique est une jeune femme qui a une masculinité prononcée. Elle est en accord avec son sexe biologique et son identité de genre. Elle est née en tant que fille et elle se définit en tant que telle. En revanche, elle tient à préserver son apparence et son look masculin.
Quand j'avais 19 ans, j'ai vraiment compris le sens et j'ai vraiment compris mon orientation sexuelle. Parce que les hommes ne me disaient rien, je ne ressentais rien pour les hommes. Donc j'ai cherché sur Internet et c'est là que j'ai su.
Et est-ce que quelque part, quand tu as su, tu t'es posé des questions sur ta féminité?
Oui. Oui, je me suis posé des questions sur ma féminité. Je me suis demandé si je suis plutôt masculine ou féminine.
Est-ce que tu as trouvé une réponse à ces interrogations?
Justement, je n'ai pas trouvé de réponse. Bon, parce que parfois, je vais dire, je suis entre les deux. Parfois, je ressens le féminin en moi. Parfois, je ressens le masculin et je n'arrive pas à me décider.
Et quand tu dis que tu ressens le masculin, comment ça se représente toi, en toi? Comment tu ressens ça?
Bon, des fois, j'ai envie des trucs. J'ai envie de faire des trucs que d'hommes, quoi. J'ai envie de m'habiller comme un garçon, genre avoir une femme, par exemple. Genre, c'est des trucs que je ressens en moi et je me comporte ainsi.
Quand tu te décris comment?
Je me décris comme une femme, mais en même temps, mon apparence laisse passer un garçon.
Pourquoi tu dis ton apparence laisse penser à un garçon?
Oui, c'est à cause de mes habitudes. Par exemple, je ne porte jamais de robe, je ne porte jamais de jupe, je ne porte jamais de pain. C'est juste des t-shirts, des shorts, souvent des pantalons et des pulls. Voilà.
Et ta coiffure aussi?
Oui, et ma coiffure aussi.
Elle est comment ta coiffure?
Coupée, de temps. Dans la coiffure, on appelle ça de temps.
Les cheveux complètement coupés? Et est-ce que les autres te posent des questions sur ton apparence?
Oui.
Ils te posent des questions? Oui. Qu'est-ce qu'on te demande?
Oui, par exemple, au niveau du quartier, il y avait un boutiquier chez qui je prends des jus. Hier, il me disait que moi, je veux être un homme, non? C'est la question qu'il m'a posée. Si moi, je veux être un homme, il a indexé une autre fille et il m'a dit que si moi, je veux de la fille, comme ça, quoi. Et bon, j'ai laissé passer.
Ça t'a choqué qu'il te pose cette question?
Oui. Oui, ça m'a choqué.
Tu lui as répondu ou tu lui as rien dit du tout?
Je lui ai rien dit du tout. Je lui ai rien dit du tout.
Et ce genre de questions, ça t'arrive que les gens ils te posent ces questions-là ou d'autres questions, par exemple?
Oui, d'autres personnes me disent pourquoi tu t'habites pas comme une fille et tout, surtout dans le contexte. Ou Kinambé. Au Bénin, personne ne me posait cette question, par exemple. Les gens posent des questions comme ça, mais bon, pas tellement. Mais ici, au Burkina, quand j'étais venue, c'était vraiment difficile parce que j'ai eu des altercations avec des gens. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi tu as des cheveux coupés, tu es un bordel. Des trucs comme ça, pourquoi tu portes jamais de jupe, pourquoi tu portes pas de pain, des trucs comme ça. Ça ne m'affecte pas. Mais si je m'assumais, ça allait pas vraiment m'affecter comme ça. Mais bon, chacun avec ses choix, chacun avec ses préférences. Je me dis ça et bon. Il ne peut pas vivre ma vie à ma place. C'est moi, c'est moi, je pense ce que je veux et tant pis quoi.
Et dans quel environnement tu as grandi?
J'ai vécu dans une famille polygame. Et j'ai vécu avec ma belle-mère, la deuxième femme de mon père.
Et ta mère, elle n'est pas là?
Non, ma mère et mon père ne sont plus ensemble. Donc elle est partie se chercher ailleurs. Et...
Est-ce qu'à un moment donné, ta famille, tes proches, ton père ou ta mère, ils en ont discuté avec toi, ils se sont posé des questions ou pas?
Oui, ma belle-mère. Mais chaque fois, mon père lui disait de me laisser tranquille et tout. Donc, ça ne va pas, parce que mon père me protège toujours. Même si ma belle-mère me force pour porter des robes, des fois, ils se sont disputés à cause de moi, parce que ma belle-mère me disait de porter des jupes pour aller à l'église et des trucs comme ça. Mais mon père, il ne me forçait pas à aller à l'église, par exemple. Il était d'accord avec ce que je faisais. Il ne m'a jamais critiqué.
Selon les sociologues, le sexe est la nature biologique d'un individu, tandis que le genre est une construction sociale. Vu cette définition, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions. Si mes parents ne m'avaient pas éduquée comme une fille, serais-je aujourd'hui celle que je suis? Je n'ai pas la réponse. Mais peut-être que cette ambivalence sommeille en chacun de nous. À ce sujet, je vous lis cet extrait d'un article du site Science Direct qui, pour moi, résume assez bien la différence entre le genre et le sexe. Chaque individu a une perception subjective de son identité. Elle lui vient de sa propre image du corps visible ou intime. Cette perception est évolutive. Elle est modulée, tracée et enregistrée par l'environnement familial, culturel et religieux et se calque sur le modèle dans lequel se développe l'individu et finalement dans celui dans lequel il se sent bien et fait le choix d'évoluer si on le lui donne la liberté. Fin de citation. Tout au long de ce travail documentaire, j'ai lu, j'ai écouté des gens me raconter leur vie, leur perception de l'idéologie féministe et de la masculinité. J'en suis arrivée à une conclusion. Il existe bien une crise, je dirais même une guerre entre les deux sexes, dans une société désormais soumise, selon certains hommes, aux normes des femmes. Ils s'évertuent donc, coûte que coûte, à reconquérir la place qu'ils auraient perdue. On pourrait penser que cette confrontation est une question de génération, c'est-à-dire une différence dans les idées entre les personnes qu'on appelle les boomers, les plus de 50 ans, et la génération Z, celle ayant moins de 30 ans. Eh bien non, vous allez être surpris. Dans un article intitulé « L'apparition d'une nouvelle fracture mondiale entre les sexes » et publié en janvier 2024 par le média britannique le Financial Times, il apparaît que sur tous les continents, y compris en Afrique, les filles de 18 à 30 ans sont devenues de plus en plus progressistes, tandis que les garçons du même âge ont un penchant pour le conservatisme. C'est une étude de l'Université de Stanford qui l'a montré. On constate de fait que la divergence de points de vue se situe au sein d'une seule et même génération, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans, donc avant MeToo. Alors que jusque-là, précise l'article, chaque génération avait tendance à évoluer de façon homogène, comme une seule, en termes de politique et d'idéologie. Comment expliquer cela? La réponse est toute simple. Toujours selon l'article du Financial Times, cela est dû en partie à MeToo. D'un côté, avec l'explosion de ce mouvement à partir de 2017, la plupart des filles se sentant plus habilitées à dénoncer les violences sexuelles et les inégalités ont embrassé les valeurs féministes, devenant progressistes. De l'autre, des garçons antiféministes car y voyant une menace pour leurs privilèges, tendant de ce fait à préserver des valeurs conservatrices. Au regard de tout cela, il est clair que la fracture est consommée entre les deux sexes, créant même chez certains une certaine nostalgie de ce qu'ils appellent le mâle alpha. En moins de 10 ans, le féminisme a fait un grand bond dans le débat public, s'il a contribué à remettre en question la domination masculine et dénoncer les inégalités, il a aussi suscité par la même occasion un boom des masculinistes. Heureusement, nous l'avons vu dans certains épisodes de ce podcast, d'autres hommes ont compris le combat féministe et ne se reconnaissent pas dans l'idéologie masculiniste. Malgré certaines avancées pour faire entendre la parole des femmes, de nombreux autres combats sont à venir. C'est une course de fond, mais elle vaut la peine d'être menée pour un monde plus égalitaire et plus respectueux. C'est ainsi que s'achève la deuxième saison de Ballet Pat. J'ai été ravie tout au long de ce cheminement sur les masculinités africaines de partager avec vous mes réflexions et mes découvertes sur le sujet. Contribuez à faire connaître ce podcast en parlant autour de vous et en le partageant sur vos réseaux sociaux. Surtout aux hommes de votre entourage, car comme je l'ai dit à la fin de chacun des épisodes, la question des masculinités est tout aussi importante que le féminisme. Merci à Guillaume Buffet qui a assuré la réalisation de ce podcast. Merci à Beverly Santou et Talim Pou pour les lectures. Merci à la cellule podcast de RFI, Steven Jambot, Simon De Creuse et Antoine Bonnet. Et surtout, un grand merci à toutes les personnes qui se sont confiées à moi. J'espère, à mon humble niveau, avoir contribué à faire avancer les connaissances sur ces sujets liés au féminisme et aux masculinités. Je m'appelle Penaï Traoré et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle saison de Ballet Pat.
Ballet Pat.
Ballet Pat.
Vous avez aimé cet épisode? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt!